dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir à tous, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de la Fox.
Infodémie, c'est un mot récent qui prend tout son sens depuis l'apparition du Covid-19. L'infodémie, c'est la propagation incontrôlée d'informations. Une profusion qui finit par empêcher de distinguer le vrai du faux. Et l'on pourrait facilement parler, à propos des fake news, d'infoxdémie, tant la prolifération de fausses informations se répand sur les réseaux sociaux. Le plus important d'entre eux, Facebook, a pris quelques dispositions pour lutter contre ce fléau, mais cela ne suffit pas à l'organisation Reporters sans frontières, qui estime que la plateforme ne fait pas respecter les conditions d'utilisation qui sont les siennes. On en parlera avec Christophe Deloire, qui est le secrétaire général de Reporters sans frontières. Non, le secrétaire général de l'ONU n'a pas exprimé son admiration pour Laurent Gbagbo après son acquittement par la CPI. Vérification faite par Sadia Manjo, journaliste à l'AFP Factuel, basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais tout de suite, les dessous de l'Infox, la chronique. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors accélérer la campagne de vaccination, c'est devenu une priorité pour les autorités de santé dans le monde entier, alors qu'il y a quand même près de 2 900 000 personnes qui sont mortes du Covid-19. Mais l'information des populations n'est pas une tâche facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une grande défiance qui persiste au sujet du vaccin d'AstraZeneca. Pourtant, c'est le plus répandu, notamment en Afrique.
Oui, alors plus de 200 millions de personnes ont reçu une injection du vaccin d'AstraZeneca dans le monde. S'il est aujourd'hui le plus répandu, c'est qu'il est le plus facile à gérer en termes de logistique. Il peut se conserver entre 2 et 8 degrés, contre moins 60, moins 80 degrés pour le Pfizer, ce qui complique sérieusement le transport et le stockage des doses. Mais ce sont les effets indésirables, bien que rares, du vaccin d'AstraZeneca qui défraient la chronique et alimentent la psychose. Cette semaine, l'Agence européenne du médicament a évoqué un lien possible entre la vaccination et la formation de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes chez les personnes de moins de 60 ans. Des décès sont signalés, 19 sur 20 millions de vaccinés au Royaume-Uni par exemple. Phénomène rare comparé aux décès provoqués par les formes graves du Covid-19. C'est pourquoi l'Agence européenne du médicament, aussi bien que l'Organisation mondiale de la santé, estime que les bénéfices restent largement supérieurs aux risques générés par la vaccination. D'autant qu'à ce stade, le lien entre ce vaccin et certaines formes de thrombose est présenté comme plausible, mais reste à confirmer.
Bon, et pour rassurer, donc, des personnalités importantes tiennent à se faire vacciner en public. Mais malheureusement, la démonstration n'est pas toujours réussie.
Effectivement, on voit circuler sur les réseaux sociaux un extrait de journal télévisé en Côte d'Ivoire où l'on est censé assister à la vaccination de Philippe Poinceau, coordonnateur des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. Or, le geste filmé ne montre pas ce que l'on devrait voir. L'infirmière fait mine de piquer le bras du responsable onusien, mais elle n'injecte rien apparemment. Alors, depuis ce 22 mars, la séquence tourne en boucle avec des commentaires indignés. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ? Interrogent les internautes perplexes face à ce simulacre de vaccination.
Vous avez vérifié, en réalité, l'équipe onusienne et son patron s'est bel et bien fait vacciner le 22 mars à Abidjan.
Oui, vacciné et photographié pendant et après. On peut les voir à la sortie du palais des sports de Trècheville, brandissant le certificat rose en bonne et due forme. Nous en avons eu la confirmation de plusieurs sources et pas seulement des principaux intéressés d'ailleurs. Outre le certificat de vaccination, des photos en attestent et nous les avons mis sur le site.
Et pourquoi alors cet extrait vidéo pour le moins troublant?
Alors, joint au téléphone, l'équipe de tournage plaide l'incident technique. Elle a d'ailleurs pu filmer pour son reportage la vaccination bien réelle et bien visible d'autres membres de l'équipe. Mais la caméra, n'ayant pu saisir le moment précis de la piqûre du responsable onusien, il a été décidé de refaire le plan. Monsieur Poinceau s'est donc fait vacciner pour de vrai, dans un premier temps, puis lors d'une simulation pour la caméra. Malheureusement, cela s'est vu. S'agissant de montrer l'exemple, la manœuvre s'est avérée pour le moins contre-productive sur Internet et sur les réseaux. Au-delà des antivax, la séquence a été relayée par des médias peu scrupuleux qui n'ont pas cherché à en savoir plus. De quoi semer le doute, même chez les internautes de bonne foi.
Les dessous de l'Infox.
Merci Sophie Malibaud. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, François.
Le métier de journaliste est devenu particulièrement compliqué. Plus que jamais, les journalistes doivent avancer prudemment dans leurs enquêtes et vérifier que toutes les informations qu'ils donnent sont conformes à la réalité. En plus, ils sont désormais les gardiens de la fiabilité de l'information et doivent traquer sans relâche l'infox. Et l'on sait désormais que les fake news voyagent très facilement sur les réseaux sociaux. Facebook, en première ligne, annonce qu'il lutte avec détermination contre les fausses informations, mais Reporters sans frontières vient de porter plainte contre le réseau social à qui il reproche d'être en contradiction avec ses conditions générales d'utilisation et ses campagnes publicitaires.
On en parle.
On en parle avec Christophe Deloire, il est le secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonsoir Christophe Deloire.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce qui motive cette action en justice contre Facebook ?
Nous on veut envoyer un signal à Facebook, un signal de ça suffit. Il y a d'un côté des engagements qui sont très forts de la part de Facebook, qui, par ses conditions générales d'utilisation, les conditions générales d'utilisation, c'est les contrats finalement qu'on signe avec Facebook lorsqu'on crée un compte, par des campagnes publicitaires, par voie de presse, donc Facebook, par ses moyens, prend l'engagement d'avoir un environnement sûr, dénué de fausses informations, prétend lutter contre les fausses informations, lutter contre les propos de haine, et la réalité, c'est que les fausses informations, les rumeurs, les propos de haine à l'encontre des journalistes, plus généralement, parce que le phénomène dépasse évidemment les journalistes, c'est monnaie courante et voire amplifiée sur Facebook. Et donc, nous, ce qu'on a visé à travers cette plainte, c'est la différence entre les engagements et la réalité. Et c'est pour ça qu'on a attaqué sur le base du droit de la consommation, de la partie pénale du droit de la consommation, pour pratiques commerciales trompeuses.
Donc des engagements qui ne sont pas suffisants, qui n'ont pas d'effet, donc, vous pensez ?
Quand on regarde de près en matière de propos de haine, d'insultes, de menaces, on a développé notre plainte, utilisé plusieurs types d'arguments. Un, des études. Des études à l'échelle internationale, à l'échelle française, qui prouvent la réalité de l'amplification des propos de haine et de la désinformation sur Facebook. Des témoignages, des constats d'huissier notamment sur la base du film Hold Up, qui est un film de désinformation sur le Covid, et qui, à certains endroits sur Facebook, puisqu'il a été prouvé que ce film contenait des contre-vérités énormes, à certains endroits sur Facebook, il était indiqué que pour celui qui regardait le film, qui pouvait contenir des désinformations, et à d'autres endroits, pas du tout. Et par exemple, nos constats d'huissier établissent qu'il y a eu, pour quelques versions du film, 4,5 millions de spectateurs qui n'ont absolument pas été avertis de l'absence de fondement factuel de ce qui était présenté comme une enquête.
Christophe Deloire, on peut se demander quand même s'il y a vraiment moyen d'éradiquer ces fausses informations, les messages haineux que vous évoquez, sans remettre en cause finalement la liberté pour tous de s'exprimer. Comment vous voyez-vous l'équilibre entre ces deux objectifs, la liberté d'expression d'un côté et la modération des discours sur Internet ?
Mais en fait, les démocraties ont réussi à instaurer au fil de l'histoire des systèmes qui permettaient à la fois de garantir la liberté d'expression, statuer sur ce qui faisait exception à la liberté d'expression. Et il y a des exceptions qui sont parfaitement légitimes, et l'appel à la haine, c'est une exception à la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'a été monté au cours de l'histoire des démocraties du droit sur ces exceptions, une régulation des médias qui permettait de sécuriser ou favoriser le pluralisme, la fiabilité de l'information, et puis par ailleurs, il y avait l'autorégulation des journalistes. Alors ce système, il n'a jamais été parfait, mais le problème, c'est que ce système, il a été détruit l'explosion de l'espace numérique et qui convient aujourd'hui de le reconstruire. Alors, il ne faut surtout pas donner aux plateformes des obligations qui sont les mêmes obligations que celles des médias. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas les rendre responsables de chacun des contenus. Il faut les rendre responsables du fonctionnement de leurs algorithmes. Et ça, c'est un droit qui doit par ailleurs être développé. Et nous, on a lancé des initiatives, et notamment l'initiative sur l'information et la démocratie et la Journalism Trust Initiative, qui vise à répondre à ces questions. Là, on a déposé une plainte sur du droit existant, qui est du droit de la consommation.
Mais Facebook n'est pas le seul réseau social à faciliter la propagation d'infox. Est-ce que ça veut dire que votre action va devoir s'étendre à d'autres, Twitter et compagnie ?
Ah ben ça, on verra, c'est pas impossible. Mais Facebook a quand même cette particularité d'abord d'avoir dans le monde près de 3 milliards de personnes, ce qui est faramineux. Enfin, on n'a jamais connu en matière de communication une structure qui est une telle domination et qui finit par constituer l'espace public dans de nombreux pays. Et rien qu'en France, il y a 38 millions de comptes qui ont été créés, il y en a 24 millions chaque jour qui fonctionnent. Bref, c'est une responsabilité énorme, et quand on a ce type de responsabilité, au moins, il ne faut pas avoir des engagements qui ne correspondent pas à la réalité.
Comment plus généralement vous définiriez, Christophe Deloire, les nouvelles contraintes du métier de journaliste face aux fake news ?
Moi, le rôle des journalistes, en fait, c'est d'assurer la fourniture d'une information fiable. Et qu'est-ce que c'est qu'une information fiable ? Alors, il peut jamais y avoir de prétention à une vérité absolue, personne n'épuise la réalité, les journalistes ont sans doute leurs défauts, mais le fait que les journalistes aient des méthodes, respectent des règles éthiques, bénéficient d'un cadre d'indépendance, ça permet d'assurer une forme de fiabilité de l'information. Parce que nous tous, quand je dis nous tous, là je parle pas des journalistes, je parle des citoyens, des êtres humains, pour connaître notre monde, l'environnement, monde lointain ou proche, on a besoin de déléguer notre confiance. Et la question, c'est à qui on délègue ? Et est-ce qu'on préfère déléguer à des pouvoirs qui aujourd'hui ont la capacité de diffuser leur propagande ? Et quand je dis des pouvoirs, ça peut être des pouvoirs politiques, économiques, religieux, pourquoi pas associatifs, enfin que sais-je, tout pouvoir aujourd'hui peut, via ses comptes sur les réseaux sociaux, via ses sites internet, diffuser de la communication de soi sur soi. Et en fait, dans ce moment d'explosion de la communication, on a besoin de tiers de confiance, de gens à qui on puisse déléguer notre confiance à raison des méthodes qu'ils emploient. Pas parce qu'en soi, ils seraient meilleurs, mais parce qu'ils procèdent avec méthode. Après, il revient à ces gens-là, les journalistes, de prouver qu'ils fonctionnent avec méthode professionnelle, règles éthiques. Et c'est sans doute comme ça que les journalistes pourront retrouver évidemment la confiance du public.
En tout cas, c'est une préoccupation pour Reporters sans frontières, cette liberté d'expression, le combat pour une information fiable. Et c'est une pratique qui peut être dangereuse pour les journalistes, la recherche de la vérité. Vous en êtes les témoins réguliers.
Ah ben malheureusement, il apparaît que justement, dans un univers où chacun peut faire la propagande de soi sur soi, et ça vaut dans les théâtres de guerre comme dans les pays en paix, les journalistes sont un peu devenus des témoins gênants, sont devenus des gens qui remettent en cause les versions officielles. Et on s'aperçoit que dans les pays en paix, les journalistes d'investigation, d'enquête, sont de plus en plus sciemment visés. Ils sont visés aussi d'ailleurs dans les guerres, mais y compris sur le territoire européen. Et sur le territoire européen, on a eu au fil des années, malheureusement, une série d'assassinats, de tragédies qui ont commencé avec Charlie Hebdo et qui sont poursuivis avec une journaliste d'investigation maltaise, avec un journaliste de données à Malte. Et là, très très récemment, alors l'enquête dira s'il y a un lien avec son exercice professionnel, un journaliste en Grèce. Donc, on est à un moment, effectivement, où le journalisme est en danger du fait des changements technologiques, des évolutions économiques, où les journalistes eux-mêmes sont en danger, cette fois-ci, du fait d'une crise démocratique, dans les dictatures, d'une crise géopolitique et évidemment de pouvoir despotique, mais dans les démocraties, d'une violence qui parfois peut être exercée pas nécessairement par les États, ça peut être les États conférer les violences policières dans un grand nombre de pays, y compris en France, mais aussi parfois d'autres parties de la société qui ont envie de censurer parce que trouvent que les journalistes donnent la parole à trop de gens différents.
Quelle chance une plainte comme celle que vous avez déposée contre Facebook a-t-elle d'aboutir ?
Bon, je pense qu'elle a des bonnes chances d'aboutir parce que c'est un travail sérieux, il y a 50 pièces à l'appui, juridiquement c'est fondé, donc c'est fondé en droit et en fait. Maintenant, c'est au procureur d'agir. La balle est dans son camp.
À quelle échéance, alors, on aura une réponse de la justice à cette plainte ?
Si vous avez la réponse, vous me la donnez, j'en sais rien. on peut espérer que le dossier sera examiné rapidement et qu'une procédure sera ouverte. Nous, encore une fois, on n'a pas une obsession du procès. Enfin, si on a lancé cette procédure, c'est que sur le fond, on y croit absolument. Mais l'enjeu, c'est évidemment d'abord un changement des pratiques réelle, une prise des consciences par les plateformes que leurs responsabilités doivent s'imposer à leur profit lorsque les responsabilités sont importantes.
Bien, on suivra votre démarche avec intérêt. On informera bien sûr nos auditeurs de ces résultats. Merci Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, et bonsoir. Direction maintenant Abidjan, en Côte d'Ivoire, où nous retrouvons Sadia Manjo, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Bonsoir Sadia.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un prétendu message de soutien à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, attribué au secrétaire général de l'ONU.
Oui. Et voici précisément les mots qu'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aurait tenus au sujet de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. J'ai une grande admiration pour ce monsieur. On a fini par découvrir en lui un homme de paix. Son pays a besoin de lui, toute l'Afrique a besoin de lui. Ses propos supposés ont été relayés des milliers de fois sur les réseaux sociaux du pays le 2 avril et ont été repris dans des articles de médias locaux. Certains vont même jusqu'à dire que cette déclaration a été publiée sur les pages Facebook et Twitter officielles d'Antonio Guterres.
Alors expliquez-nous, les publications ont circulé le 2 avril, soit deux jours après la confirmation de l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale.
Effectivement, et cela n'est pas anodin. Ça sous-entend qu'Antonio Guterres se réjouit de la décision de la Cour rendue après 10 ans de procédure contre Laurent Gbagbo. Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre. Fin 2010, début 2011, la Côte d'Ivoire fait face à une violente crise. Le président sortant Laurent Gbagbo ne reconnaît pas sa défaite à l'élection présidentielle et refuse de céder sa place à son rival Alassane Ouattara. Cela mène à une crise post-électorale qui fera 3000 morts en près de 5 mois. La Cour pénale internationale, la CPI, décide alors de poursuivre Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité. Le 31 mars dernier, soit 10 ans après l'ouverture du dossier, les juges le reconnaissent finalement non coupable et l'acquittent officiellement pour le plus grand bonheur de ses partisans.
Ah, on comprend que son parti a célébré cette nouvelle, mais enfin, on imagine mal que le secrétaire général des Nations Unies ait réellement applaudi cette décision.
Vous avez tout à fait raison. Il était très étonnant qu'Antonio Guterres, en sa qualité de patron de l'ONU, soumis à une certaine réserve diplomatique, ait fait une telle annonce. Nous avons donc parcouru ses pages Facebook et Twitter officielles, ainsi que les pages des Nations Unies, et nous n'avons trouvé aucune trace d'une telle déclaration. Nous avons également contacté son bureau, qui nous a confirmé que M. Guterres n'a jamais tenu de tels propos. Son porte-parole, Stéphane Jarric, a d'ailleurs rappelé que l'ONU ne commentait jamais les décisions de la CPI. Il s'agit de deux institutions différentes et indépendantes, a-t-il tenu à souligner.
Donc, l'ONU dément ce commentaire attribué à son secrétaire général. Et qu'en est-il alors de Laurent Gbagbo aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut revenir en Côte d'Ivoire ?
Oui, désormais, M. Gbagbo est libre de revenir dans son pays où il a été absent pendant 10 ans. Mais les questions que tout le monde se pose, c'est quand va-t-il faire son grand retour et quelles en seront les conséquences politiques pour la Côte d'Ivoire ? En décembre, depuis la Belgique où il réside, Laurent Gbagbo avait assuré qu'il rentrerait dès qu'il le pourrait. Mais l'ex-président encourt toujours une peine de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, où il a été condamné pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, lors de la crise de 2010-2011. Le 7 avril, le président Ouattara a annoncé qu'il prenait acte de la décision de la CPI. Il a dit que M. Gbagbo peut rentrer quand il le souhaite, qu'il bénéficierait des avantages ainsi que des indemnités dues aux anciens présidents de la République.
Bien, on suit cette affaire, mais on ne donne pas crédit, bien sûr, à de fausses déclarations. Merci de cette vérification, Sadia Manjo, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Et bonsoir à Abidjan.
Vérification faite.
C'est la fin des Dessous de l'Infox, attaché de production Florence Pons, documentation Julia Dena, réalisation Claude Battista. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet sous l'onglet podcast.
François Bernard
vous dit bonsoir et à la semaine prochaine.
RFI. L'épopée des musiques noires.
Le nom Jackson.